Merci beaucoup Yacine pour cette introduction. Bonsoir à tous, merci vraiment beaucoup d'être venus aussi nombreux ce soir. Donc on est ravis de vous présenter le projet Connect Plumbing qui a été créé en collaboration avec le studio organique, le LEED et le Lattice. Je m'appelle donc Julie Lebotte, je suis spécialiste en philosophie des sciences et je travaille chez Super Organique où j'anime les rencontres Art Science. Super Organique, c'est une association où on crée des projets de vulgarisation scientifique et on cherche à créer des ponts entre art et science. Dans le format des rencontres, j'interroge une artiste et une scientifique sur leurs travaux et les liens qu'on peut faire entre leurs approches, et c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir. Et donc pour nous présenter le projet d'aujourd'hui, j'ai le plaisir donc d'accueillir Juliette Lefay et Delphine Bonin. Juliette donc, qui est cofondatrice du studio Organique, et Delphine Bonin qui est biologiste végétale au LEED à l'Université de Paris et auteure de l'ouvrage Sensible par nature. Elles vont nous présenter donc leur approche, leur collaboration dans la création de ce projet, et on va rentrer un peu plus dans les détails pour qu'après vous puissiez aussi mieux appréhender le projet qui est du coup dehors. Pour commencer, peut-être vous pouvez vous présenter brièvement votre parcours, aussi ce qui vous a amené à travailler, donc l'une au croisement entre les sciences et l'environnement, ainsi que le travail du laboratoire, et pour l'autre sur des projets art, sciences, technologie avec le studio Organique. Delphine, je te laisse commencer.
Merci Julie. Donc comme tu l'as dit, effectivement, je suis biologiste des plantes. Moi, j'ai une formation de physiologie végétale que j'ai faite à Jussieu à l'époque à l'université Pierre et Marie Curie. Donc je m'intéressais effectivement à la physiologie des plantes. J'ai toujours été passionnée par les plantes. J'aimais beaucoup leur beauté, leur singularité, et de toute façon, s'il fallait que je fasse des études en sciences, c'était sur les plantes. J'avais pas vraiment envisagé d'autres choses. Et donc je me suis intéressée effectivement à la physiologie des plantes. Par la suite, donc aujourd'hui, je suis dans un laboratoire qui est interdisciplinaire, qui s'intéresse par le biais de plusieurs disciplines à des thématiques diverses et variées, dont les plantes. Et dans notre équipe, on a l'occasion de tester, de mesurer, de comprendre les réponses physiologiques des plantes à des changements environnementaux, que ce soit des aléas, des stress, etc. Donc l'idée, c'est de comprendre du niveau cellulaire à la plante entière qu'est-ce qui se passe chez les plantes, et notamment leurs réponses rapides. Donc moi, j'ai effectivement fait une thèse sur une plante qui s'appelle Cachillea maritima, qui est une plante qui pousse dans les sols salins. C'est un peu ma plante fétiche. Je saoule tout le monde à l'époque. Donc ce qui était bien avec cette thèse, c'est qu'on a commencé à appréhender des changements d'échelle. Donc dans ce laboratoire, quand on s'intéressait aux plantes, en fait, on s'intéressait vraiment au niveau cellulaire, aux réponses cellulaires liées à des stress hydriques, stress osmotiques divers et variés, etc. Et finalement, lors de cette thèse, on s'est aussi intéressé à la plante entière. Et donc on est passé de l'échelle cellulaire à la plante entière. Et donc ça a été intéressant, et ça a lancé un petit peu finalement une autre échelle dans nos études actuelles, ce qu'on fait aujourd'hui, on s'intéresse à la plante entière. Et l'une des expertises de l'équipe, c'est les études électrophysiologiques. Donc on mesure finalement les signaux électriques qui sont présents chez les plantes. On utilise pour ça des outils qui sont les outils qu'on utilise en neurosciences. Voilà, donc c'est exactement le même type d'outils, et on mesure des signaux électriques qui sont générés mécanistiquement, enfin physiologiquement, de la même manière que chez les animaux. Voilà.
Merci beaucoup. Juliette, je te laisse te présenter.
Merci. Bonjour, je m'appelle Juliette Lefay, je suis la cofondatrice de Studio Organique, un studio spécialisé en art science, en art numérique. De base, j'ai une formation ingénieur, donc j'étais ni du domaine artistique, ni du domaine scientifique, mais plutôt du domaine technique, technologique. Et pendant mes études, j'ai toujours eu un peu cette question de comment ça se fait, avec toute la technologie qui existe et les cerveaux humains qu'on a, comment ça se fait qu'on développe des techs qui soient très terre à terre. C'est qu'en fin d'études, en sortie d'études, que j'ai découvert l'art numérique. Donc j'ai vraiment découvert l'art numérique avec deux gars qui bidouillaient au fin fond d'un hangar, qui prenaient de la tech, qui la décomposaient et qui repensaient complètement les usages dans un but artistique. J'ai trouvé ça génial. Et à partir de là, j'ai décidé de mettre la gestion de projets que j'avais acquis dans le monde d'ingénieur pour développer des projets d'art numérique, de technologie créative. C'est à ce moment, et en étant dans ce milieu, que j'ai rencontré mes deux collègues, mes deux collaborateurs, mes deux associés aujourd'hui, donc Théo Brice et Neil Dralos-Kona. On s'est rencontrés tous les trois et on a eu en fait cette envie de, certes, penser la tech autrement, mais de penser la technologie, non pas pour nous couper de notre environnement et du monde extérieur, comme c'est le cas aujourd'hui, dès qu'on a un écran devant les yeux, on ne voit plus rien de ce qu'il y a autour, mais de penser la technologie pour nous relier à la nature et au sensible.
Génial. Pour rentrer un peu dans le cœur du projet qui nous occupe ce soir, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment est né le projet donc Connect Plant Being? Quelles étaient vos intentions au départ? Qu'est-ce qui vous a intéressé aussi dans ce projet? Juliette, je te laisse faire l'historique.
Du coup, pour comprendre le projet Connect, donc le projet Connect qui est dans le petit jardin à l'entrée, donc c'est l'écran dans l'arbre, il faut revenir un peu aux origines, donc au premier projet du studio. Le premier projet, c'est un projet qui s'appelle donc Plant Being, qu'on a décidé de ramener aussi aujourd'hui. C'est cette petite installation qui est là. Donc Plant Being, c'est une installation audiovisuelle entièrement générée par une plante. Comment ça fonctionne? On a deux électrodes au niveau des feuilles, des tiges. On vient capter l'activité électrique, l'activité naturelle de la plante, et on va la retranscrire de manière artistique, poétique, en son et en visuel. Cette installation-là, quand on a commencé à la développer et à la montrer au public, forcément, ça soulève énormément de questions, et énormément de questions scientifiques où on n'avait pas forcément les réponses. Et c'est là où on a en fait cherché à s'associer avec un laboratoire pour justement pas aller diffuser de fausses informations. Puis on avait aussi envie, nous, de savoir. Et donc, on a rencontré, donc, grâce à Mao de Guibon, qui était ingénieur transfert au CNRS, elle a vu le projet, elle a tout de suite pensé au laboratoire du LEED. Et c'est là qu'a commencé notre collaboration, où le LEED est en fait venu faire la médiation scientifique autour de notre projet artistique. Donc ça, c'est vraiment l'origine du projet, l'origine de notre collaboration. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le projet Connect, dans la première partie, donc c'était un projet artistique auquel on allait chercher de l'information scientifique, et là, c'est l'inverse. Avec le projet Connect, c'est le LEED qui avait un projet de collecte de données. Donc ça part d'un projet scientifique, et nous, on va rajouter le côté artistique.
Merci Juliette, effectivement c'est comme ça la genèse du projet, c'est ça, mais moi je trouve aussi que c'est quelque chose qui a été co-construit, Connect Plant Being, c'est justement parce qu'on a effectivement pu collaborer là-dessus, qu'on a réfléchi à comment retranscrire ça en tissant encore plus la co-construction d'un projet entre art et science, en utilisant les expertises de chacun et de chacune. Et c'était vraiment l'un des objectifs de ce projet-là, de continuer cette collaboration-là, et aussi de toucher, en tant que scientifique, donc là je parle en tant que biologiste, de toucher un public qui n'est pas forcément attiré par les sciences, et donc de pouvoir capter les gens d'une autre manière, d'une manière sensible, d'une manière artistique, mais en apportant des informations scientifiques. Donc c'est une autre manière de faire la médiation scientifique, et ça permet de toucher un autre public, donc ça voilà, augmente l'éventail du public qui va être touché par les informations qu'on veut lui transmettre. Et c'était ça un peu l'objectif de ce projet-là, tout en essayant de voir un peu plus grand aussi, l'échelle. Augmente, on passe de l'intérieur à l'extérieur, c'est ce que tu disais, et ça aussi c'était important.
Et pour rentrer justement peut-être un peu dans la technique qu'il y a derrière ce projet, donc le projet Connect, il repose sur la captation des signaux électriques de l'arbre du coup qu'il y a dehors. Comment on passe en fait de la donnée scientifique qui sont ces signaux électriques à une expérience sensible, et qu'est-ce que cette transformation aussi, elle nous dit du vivant? Peut-être Delphine, je te laisse commencer.
Alors techniquement, donc j'ai parlé d'électrophysiologie, donc littéralement, on va collecter des mesures en tension grâce à des électrodes qu'on va insérer dans l'arbre, mais je laisserai Louane Biancotto en parler davantage tout à l'heure, vous verrez. Et donc on a des mesures quantitatives avec des capteurs aussi d'humidité, de lumière, etc., qui nous permettent d'avoir ces données-là, qui elles vont être exploitées par la suite en recherche pour comprendre les réponses physiologiques de la plante en réponse à son environnement, et notamment les épisodes caniculaires qui vont pas tarder. Ça c'est l'intérêt, c'est de comprendre ce côté technique-là. L'aspect onirique et, qui arrive par la suite, je laisserai Juliette en parler, elle en parlera bien mieux que moi, la manière dont c'est retranscrit. Par contre, ce que ça dit du vivant, de pouvoir enregistrer ces signaux-là, qui sont des signaux très rapides, ça dit aussi justement la manière dont les plantes sont sensibles à l'environnement. D'une sensibilité qui est très rapide, qui est active et qui n'est pas du tout celle qu'on peut imaginer des plantes. Plant Being, de toute façon, en elle-même, cette installation le montre, c'est des réponses qui sont vraiment très rapides. Donc ça dit des plantes, notamment une réponse vraiment très active, une sensibilité accrue à leur environnement. Et donc elles vont répondre à cette perception par des réponses qui peuvent être de l'ordre de la microseconde, la milliseconde, jusqu'à quelques heures. Donc vraiment, on a des échelles de réponse très très variées. Et donc ça, c'est ce qui nous a intéressé également. Et je voulais aussi ajouter que tu as parlé du LADIS, qui est un laboratoire de sciences humaines et sociales. En fait, on a un volet dans ce projet-là qui, c'est moins côté technique avec des électrodes, mais du coup, Louane, elle a développé un questionnaire qui permet de questionner justement la perception des citadins et des citadines des plantes en ville. Comment, quand on croise des plantes tout le temps, on perçoit ces villes, etc., ces plantes, et qu'est-ce qu'apporte cette installation. Ça, c'était aussi important. Il y a un côté technique dans la manière dont on réalise ce questionnaire qui apporte aussi quelque chose en données scientifiques par la suite.
Juliette, pour compléter sur la technique du projet.
Merci. Pour tout le côté technique du projet, c'est moi qui suis responsable, mais mon collègue Nils Draloskona, qui est juste là. Peut-être si tu peux lever la main si vous avez des questions d'un point de vue technique. N'hésitez pas, on a du temps après pour discuter autour du cocktail. Vous pouvez aller le voir, il sera ravi de répondre à vos questions. Je peux en effet, par contre, vous en dire déjà un mot. Donc, dans l'installation Connect, donc, il y a plusieurs types de capteurs. On va capter à la fois des données relatives à l'environnement, donc on a un capteur luminosité, température, humidité, tout à fait. Et on a aussi un capteur où là, pour le coup, c'est vraiment intrinsèque à l'arbre, donc de l'activité de l'arbre. Donc c'est deux capteurs qui sont mis au niveau de l'écorce. Ces données-là, nous en fait ce qu'on fait, c'est on va faire de la traduction, de la visualisation de données en temps réel. C'est grâce à ce côté temps réel que l'installation peut être faite. Donc, une fois qu'on récupère ces données, elles sont traitées par un ordinateur qui est bien à l'abri dans le côté PC sécurité, qui n'est pas dehors pour le coup. Et ces données sont donc lues par un logiciel qui s'appelle Touch Designer, qui permet de faire de la visualisation de données en temps réel. Et via les données qu'on va créer les visuels. Par exemple, c'est la température qui va faire évoluer la couleur de ce qu'on voit à l'écran. Et dès qu'il y a des pixels qui apparaissent sur l'écran, ça veut dire que c'est l'arbre a une activité. Vous pourrez poser des questions à Nib après coup. Ce que je voulais surtout souligner, c'est le fait que ce qui est un peu fou dans ce projet et ce qui a été permis par Ricard, c'est le fait qu'on a mis un écran LED semi-transparent dans un arbre. C'est vraiment un peu fou. Je pense pas que vous en croiserez beaucoup d'autres. C'est une installation qui va rester plusieurs mois, qui a été pensée pour résister aux intempéries. Et ça, c'est vraiment de la recherche et développement qu'on fait en temps réel grâce à ICAR. Et donc, c'est aussi le début de comment on peut utiliser cette tech dans l'espace public.
Et justement, le fait que cet écran il soit dans l'espace public, on a déjà commencé à en parler, mais il y a vraiment un aspect de la perception sensible autour de ce projet qui est très important. Justement, qu'est-ce que vous cherchez à explorer ou à faire ressentir au public avec le projet Connect Plumbing? Et selon vous, peut-être qu'est-ce que ce projet-là il nous donne aussi comme perspective sur les végétaux, le vivant et notre rapport avec eux? Delphine, peut-être, je te laisse répondre.
Effectivement, donc, ce projet il donne l'opportunité à chacun et chacune d'explorer justement une sensibilité aux plantes. Une sensibilité qui n'est pas forcément celle qu'on imagine. Et donc là, effectivement, comme tu dis, le fait que ce soit sur l'espace public, ça donne une portée à tout à chacun qui se promène dans la rue. Donc c'est vrai que c'est quand même assez fou. Et donc à la fois, on a la sensibilité de la plante qui est mise en lumière. Et c'était aussi important, justement, que tout ce dispositif artistique est en temps réel, justement mettre la lumière sur les plantes et en l'occurrence sur cet arbre qui est un paulownia d'ailleurs, et alors qu'on n'y prête pas forcément attention quand on les croise tous les jours, voilà. Et donc l'idée c'était aussi de mettre la lumière sur ces plantes là d'une manière sensible, et aussi via justement donc via la sensibilité de l'arbre en elle-même par les électrodes, mais aussi via cette reconnexion au vivant par le fait d'interpeller les citadins et les citadines sur comment ils perçoivent les plantes, qu'est-ce que voir cette installation voilà, les fait changer, est-ce qu'ils se questionnent, ils et elles se questionnent sur voilà, cette réactivité, ces signaux qui circulent dans la plante. C'est tout ça en fait qui permet cette... De faire un pas de côté en fait. Et c'est aussi, j'aimerais ajouter que c'est aussi l'idée de pouvoir prendre le temps aussi d'observer les choses. Les plantes, elles ne bougent pas à l'œil nu, donc forcément, ce n'est pas quelque chose qu'on va prendre le temps d'observer pendant quelques minutes. Là, on observe ce qui se passe dans la plante et on se rend compte que finalement, il se passe des choses bien plus rapides qu'on imagine. Donc c'est déjà prendre le temps d'observer ça, et ça c'est déjà aussi intéressant.
Complètement. Juliette, peut-être sur la perception sensible et le rapport au public.
C'est exactement ce que disait Delphine, ce côté de c'est pas parce que on ne voit pas des choses avec nos yeux qu'il ne se passe rien. Avec la visualisation des données, ça permet de le mettre tout de suite en lumière, on peut pas y échapper, et donc après, ensuite vient les questionnements. Qu'est-ce que c'est cette chose que je ne remarque pas d'habitude et que je vois là en grand? J'ai envie de savoir. Dans ce qu'on fait, notamment dans les projets avec le studio, il y a vraiment ce côté de réenchanter le vivant, réenchanter notre environnement, ce qu'on voit tous les jours, et de cette capacité un peu folle, un peu magique, de montrer l'invisible. Ça, c'est vraiment ce que l'art numérique nous permet. Aussi, bah, voilà, ce que Delphine disait, le fait que l'arbre est sensible à son environnement, bien plus sensible que ce qu'on pense, que ce qu'on pourrait penser. Et ça, c'est des expériences, des retours d'expériences qu'on a eues, notamment bon, quand on montrait donc, un petit dispositif plumbing à des milieux scolaires. C'est déjà arrivé que face à des jeunes, on présente l'installation, on dit deux mots, ils testent un peu et ensuite ils viennent me voir, ils me disent « Mais du coup, ça veut dire que les plantes, elles sont vivantes ?» Et en fait, on se rend compte à quel point cette installation peut changer la perception d'un humain, d'un jeune humain, pour sûrement le restant de sa vie, et réenchanter complètement son environnement.
Oui, tout à fait. Et je pense que c'est justement c'est cette alliance dont on parle depuis tout à l'heure, dans le fond, qui est l'alliance entre l'art et la science, qui permet aussi de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Justement, avec ce projet, j'avais envie de vous poser la question de qu'est-ce que la collaboration entre art et science a pu changer dans vos perspectives respectives? Et est-ce que ça vous a peut-être ouvert des nouvelles manières de créer, de penser ou de rechercher?
En fait, moi, ça a confirmé déjà quelque chose qui commençait à se construire un petit peu dans mon esprit, le fait qu'on oppose souvent les sciences et les arts. Et on se rend compte qu'en réalité, le processus de réflexion, il est assez proche. En termes d'imagination, de prendre le temps de la réflexion, de comprendre ce qu'on observe, voilà, d'avoir des nouvelles idées, de protocoles, d'expériences. Alors ce temps-là, en recherche, on le prend de moins en moins. Et je crois que peut-être que vous prenez ce temps-là. et je pense qu'on devrait peut-être le reprendre un petit peu. Se forcer à prendre le temps de se poser, de réfléchir, d'observer, de faire cette bibliographie. Voilà. Et ça, j'ai trouvé ça important de me rendre compte que finalement, il y avait cette similitude. Et même, j'ai envie de dire qu'il faut qu'il y ait cette imagination et ce côté créatif en recherche, qui est quelque chose qui n'est pas assumé ou caché ou pas forcément mis en avant. Les méthodes ne sont pas forcément les mêmes. Voilà, en science, il y a une méthode scientifique qu'il faut respecter, qui nous donne, qui valide les résultats que les sciences peuvent apporter. Des choses qui sont concrètes, observées, testées, retestées, qui sont répétables, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont propres à la science. Néanmoins, j'ai trouvé ça important de réaliser à ce point, quel point il y avait cette similitude entre les sciences et les arts. Je ne sais pas s'il y avait une deuxième question.
Ça a changé ta manière de créer ou de réfléchir, mais je pense que tu y as déjà.
Oui, j'ai oui.
Et Juliette, du coup, sur la partie collaboration en sciences.
Ça rejoint ce que Delphine disait, ce côté où ce qu'il y a de commun, de très fort, je trouve, entre les scientifiques et les artistes, c'est ce besoin de créativité pour avancer. On est dans des domaines où on a besoin de nouveau, on a besoin d'aller plus loin, et ça vient grâce à la créativité. Donc certes, c'est des méthodes différentes, mais qui, je pense, sont entièrement complémentaires. Dans le projet qu'on a ensemble, le projet Connect, ce que je trouve assez beau, c'est que l'art permet de voir la science d'une autre manière, de rendre du coup la science plus accessible, mais il y a aussi un autre côté, l'effet inverse, où la science permet aussi de donner une autre image à l'art, où l'art devient un vecteur d'information. Où parfois on peut avoir des critiques, enfin, la grande critique sur l'art, c'est que ça sert à rien. Donc je trouve ça très complémentaire et qu'on a beaucoup de choses à s'apporter. Ce que je trouve très beau dans les projets art science, c'est le côté de l'interdisciplinarité. En fait, comment deux matières qu'on pourrait croire différentes s'apportent l'une de l'autre. Donc là, il s'avère que c'est et l'art et la science, mais ça pourrait être d'autres types de matières. Et du coup, de vraiment penser une vision plus globale, arrêter de tout fractionner, de se dire « Ok, en fait, si avec un sujet, si on regarde par différents prismes, on peut arriver à une expérience plus forte. »
Le temps file, donc on va arriver à la fin de cette partie. Pour terminer, peut-être quelle piste ou envie ce projet a fait émerger dans votre perspective pour la suite ? Et peut-être un petit mot plus général sur la collaboration que vous pouvez envisager entre les mondes scientifiques et artistiques et peut-être leurs limites que vous pourrez avoir en tête.
Moi je pense que j'ai toujours eu un peu une fibre artistique, donc finalement ça me semble presque naturel de lier les deux. Donc c'est quelque chose que je continue de faire. Voilà, j'ai collaboré avec une illustratrice scientifique pour des ateliers de dessin scientifique sur l'agentivité des plantes. Ça fait maintenant presque un an et demi du coup qu'on se connaît. Je pense que c'est des pistes que je vais continuer d'explorer. Et finalement, en plus, on se rend compte que de tisser, de co-construire comme ça entre art et science permet d'une certaine manière de financer des projets de recherche aussi. Et ça aussi, c'est quelque chose de nouveau que nombre d'artistes aussi cherchent à défendre, je crois. Et je pense que nous, ça peut aussi nous apporter beaucoup de choses. Voilà pour ce que ça peut m'inspirer. Donc je pense qu'il y a d'autres choses Le livre que j'ai coécrit, que tu mentionnais tout à l'heure, donc avec Lucia Sylvain Bonfanti, c'est un livre qu'on a voulu très illustré, qui est illustré par Claire Martha. Et justement, donc, j'ose dire que peut-être c'est de l'art aussi. En tout cas, c'est un livre qu'on a voulu très beau, justement pour ce côté sensible et pour et un peu immersif, de toucher vraiment les lecteurs et les lectrices. Donc c'est quelque chose, voilà, je pense que je continuerai, ça fait partie de moi aussi. Et pas dans le côté un peu plus limite, un peu plus difficile, peut-être évoquer le fait que ce type de projet-là, la médiation scientifique en général, c'est pas de plus en plus. C'est pas quelque chose qui est non plus très valorisé dans le monde académique, mais ça change. C'est pas prioritaire par rapport à des travaux de recherche plus classiques. Et les collaborations à Rescience, peut-être même encore moins. Donc c'est quelque chose qu'il faut aussi défendre, valoriser, qui n'ont pas forcément le même poids que d'autres types d'activités, en tous les cas, dans le monde académique. Et puis du coup, comme c'est des choses qui sont complémentaires, ça prend aussi du temps supplémentaire par rapport au temps qu'on peut avoir dans la recherche en général. Voilà, c'est un petit peu les limites qu'on peut noter, de mon côté.
Juliette, pour terminer.
Du coup, ce projet nous a donné envie de faire plein de choses avec le studio. Le premier point qu'on a envie de pousser, c'est ce côté de mettre de l'art dans l'espace public. En fait, ça permet de toucher un public qu'on n'a pas du tout habituellement. Habituellement, les projets qu'on fait, ils sont dans des lieux culturels, donc il faut déjà faire cette démarche d'entrée. Là, ça permet d'aller toucher des personnes qui ne seraient pas forcément rentrées dans un musée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on souhaite développer avec le studio. Aussi, autre chose, donc forcément, on a beaucoup aimé collaborer avec des laboratoires scientifiques. Et donc, il y a soit pour valoriser leur recherche, mais aussi, et là, c'est une ligne sur laquelle on aimerait bien tendre, de valoriser les technologies, les machines qui sont dans des labos. C'est des techniques de pointe qui permettent de faire des choses de dingue et qui sont en fait pas du tout connues du grand public. Le truc qui est super avec l'art numérique, avec la créativité, c'est qu'on peut justement penser ces machines autrement et comment créer une installation sensible, artistique, avec des technologies qui ne sont pas accessibles d'habitude. Donc ça, c'est des projets qu'on verront sûrement le jour l'année prochaine. Et pour finir, je parlais aussi des limites des projets art-sciences. J'en vois une, et c'est une auquel on essaye de faire vraiment attention à ça quand on développe nos projets, c'est que de pas faire un bloc art-sciences, c'est-à-dire de vraiment diviser le côté art et le côté scientifique. C'est-à-dire pour que le public sache, bon bah, à quel moment ils sont dans l'art et dans l'onirisme, à quel moment ils peuvent vraiment aller plonger dans leur imaginaire, et à quel moment ils ont affaire à une réalité scientifique. Ça, pour nous, c'est quelque chose qui est très important. Et voilà, on espère y prêter le plus d'attention possible.
Merci beaucoup. On va avoir le temps pour quelques questions. Si dans le public, il y a peut-être quelqu'un, quelqu'une qui a envie de poser une question. Ouais. Est-ce que tu peux le dire à voix haute ou... Ouais.
C'est une question peut-être un tout petit peu plus pour Delphine. Du coup, le côté scientifique et l'interaction avec l'art et le travail que ça prend en tant que chercheur de pouvoir faire ce genre de collaboration, est-ce que tu penses que ça, ou est-ce que tu aimerais, est-ce que tu vois une insertion aussi dans l'enseignement, c'est-à-dire d'utiliser ce genre d'installation et de rapprochement avec des approches un petit peu plus artistiques pour aussi enseigner à l'université, en tout cas apporter un autre regard sur ce qui nous est enseigné à l'université en termes de vraiment base fondamentale.
Merci pour la question. Alors juste pour précision, moi je suis pas enseignante chercheuse, donc je donne quelques cours, mais c'est pas mon métier principal. Néanmoins, que ce soit à l'université ou dans les écoles, parce que j'ai fait aussi quelques interventions en scolaire. De toute façon, le sensible, l'approche sensible apporte quelque chose de supplémentaire.
De toute façon, que ce soit même dans l'expérimentation en général, les travaux pratiques apportent bien plus qu'un cours magistral. En tout cas, voilà, on a le côté manipulation. Et là, le fait d'avoir un rapport sensible aux plantes, par exemple, alors nous, on n'avait pas une installation plant being, mais on avait des électrodes et on pouvait voir le signal bruit dont tu parlais tout à l'heure. Et les enfants, quand ils voient ça, et même, même en fait, dans les cours universitaires, c'est pas forcément des choses qui sont... je digresse, mais en tous les cas, le fait de toucher la plante, de voir qu'il se passe quelque chose au niveau rapidement en termes de signal, ça c'est quelque chose de fondamental qui n'est pas forcément beaucoup enseigné. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de recherches en électrophysiologie végétale en France, et donc forcément les enseignements découlent des recherches universitaires. Donc seulement finalement les personnes qui font cette recherche auraient tendance à l'enseigner. Donc, mais en tous les cas, moi, je crois fortement que cette approche sensible, alors je ne sais pas sous quelle forme, artistique, effectivement, ou non, peut-être qu'un côté créatif, peut-être dans le cas de médiation, de cours de médiation, il pourrait y avoir ce mélange entre art et science.
Je peux ajouter un petit mot. Alors, ça ne sera pas du côté pédagogique universitaire, mais par exemple, hier, j'avais un rendez-vous avec la Cité des Sciences, et eux vont chercher dans leurs expositions, dans leurs dispositifs interactifs, de plus en plus du côté de l'art, pour intriguer. Donc, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur, notamment pour la pédagogie.
Est-ce qu'il y a une autre question ? Ça marche. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention déjà. Merci Delphine, merci Juliette pour vos réponses. Avant de continuer le déroulé de la soirée, je vous partage donc quelques informations. Delphine, du coup, donc vous avez pu voir sur la table, il y a du coup le livre de Delphine Sensible par Nature et elle pourra vous le dédicacer si vous le souhaitez dans la soirée. Je voulais aussi vous partager donc la prochaine actualité donc, de Super Organique, qui est l'association avec laquelle on travaille avec Juliette. Si ce format vous a plu, on organise une prochaine rencontre Art Science le 10 juin au soir, qui sera sur une thématique complètement différente parce qu'on va parler de physique quantique avec un artiste numérique, Mathieu Poli, et Antoine Covolo, qui est doctorant au Collège de France en physique quantique justement, qui travaille sur la lumière et les interactions entre photons. Ce sera donc le 10 juin à partir de 19h dans un café-théâtre dans le 10e qui s'appelle le Kibélé. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à venir nous voir et on vous a laissé aussi un petit QR code pour si vous voulez scanner pour vous inscrire dès aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et puis je te relaisse le micro, Delphine.
Je laisserai Louane Biancotto vous parler de l'aspect scientifique un petit peu différemment de ce qu'on vient d'entendre et Théo Brice qui vous expliquera un petit peu ce qui l'a inspiré, ce qui les a inspirés dans ces visualisations qui sont générées. Et je tiens quand même à remercier plusieurs personnes. Donc ce projet, vous l'avez deviné, il a été soutenu par le PEPR ICAR, qui nous a permis, entre autres, de financer le stage de master de Louane et la prestation, justement, du studio organique. Donc ce qui, en tant que tel, c'est quand même une bonne illustration que, justement, des projets à la croisée de ces deux mondes se tissent peu à peu. Donc merci, justement, à la direction de ce programme-là, Saul Wexer et David Kerjoli. Merci beaucoup également à Hyacinthe Belliot, Marion Brisa et Taina Pereira-Ramos pour leur investissement dans l'organisation de cet événement et le soutien administratif du projet plus globalement, qui a été indispensable pour ce projet. Nous sommes ce soir à l'Institut de physique de Globe de Paris. Ici se font des découvertes en géosciences sur notre planète, celle-là même indissociable du vivant qui participe à ce qu'elle est aujourd'hui. C'est aussi un site de l'Université Paris-Cité qui accueille des arbres. Il n'y a pas beaucoup de sites qui accueillent des arbres. mais ici, on avait un beau spécimen de Paulownia. Et donc on l'a choisi pour plusieurs choses qui ont été un peu citées déjà. Le fait qu'il soit visible, effectivement, dans l'espace public. Sa proximité avec le Jardin des Plantes, qui fait sens. Sa situation centrale dans Paris. Et sa prestance face à ses deux compagnons un petit peu plus timides. Merci beaucoup du coup à la direction de l'IPGP de nous avoir permis d'y installer notre dispositif. Une reconnaissance particulière à Pierre-Yves Clos, Laetitia Mas et Mélanie Caron et Yannick Makwe-Nomena pour leur accueil, leur disponibilité et leur aide indispensable. Et cela est également possible grâce au soutien précieux de la vice-présidence d'Université Paris Cité au développement durable, responsabilité sociétale et environnementale. Merci à Sophie Gilles, Jean-François Meskoff et Inès Guesby pour leur soutien. Je remercie également Mao de Guilbon et Adèle Troussé, Juliette en a parlé tout à l'heure, qui travaillaient au CNRS et qui sont à l'initiative effectivement de notre rencontre, conduisant à notre collaboration avec Studio Organique. Juliette Lefay, Neil Dralos-Kona et Théo Brice, merci d'avoir transformé d'une si belle manière l'invisible des plantes et de cet arbre en particulier. Je ne peux terminer sans évoquer le LEAD et toutes les chercheurs et les chercheuses qui s'y trouvent et sa direction, Laurent Royon, Catherine Villard et Nicolas Delbar qui offrent un espace d'émulation intellectuelle ancré dans le réel, soutient et valorise les recherches menées sans oublier qui les font. Enfin, je représente ce soir une équipe foisonnante d'idées, habitée par une curiosité scientifique qui nous mène parfois loin, peut-être trop, parfois au Japon, Tomonori Kawano est là, et unie par les plantes. Car rien en recherche ne se fait seul, c'est pour ça que l'équipe est importante. Merci François Bouteau, Patrick Laurenti, Patrice Memoun, Aurore Gélier Timsit, Frédéric Filen et Lucia Sylvain Bonfanti, mais aussi Étienne Grision et Clément Gros du LADIS. Lou-Anne, ça va être ton tour. Je te remercie pour ton investissement dans ton stage pour ce projet et te laisse la parole.
Mon objectif ce soir, c'est de vous expliquer un peu plus en détail ce qu'on mesure, en fait, ce qu'on va appeler un signal électrique dans une plante. Ce qui, je pense, pour commencer cette illustration, il faut qu'on comprenne ce qui, ce qui va se passer à l'intérieur. Donc, tout d'abord, au niveau structurel, je voudrais que vous visualisiez un tronc d'arbre coupé. Et on verra dans la partie qui se rapproche de l'écorce, on pourra trouver les tissus qui nous intéressent aujourd'hui pour notre recherche, qui vont être les tissus conducteurs, donc le xylème et le phloème, qui, un peu de la même manière que notre système circulatoire à nous, vont faire circuler le xylème à son rôle. Il va amener des nutriments, des minéraux et de l'eau. Le phloème, lui, va rapporter les produits de photosynthèse. Ces tissus vont aussi être les transporteurs de messagers, des messagers chimiques, mais aussi ce qui nous intéresse ce soir, les signaux électriques. C'est pour ça que c'est à ce niveau-là, donc dans une couche assez superficielle finalement, que l'on place nos électrodes. Les électrodes sont très petites, rassurez-vous, on ne fait pas de mal aux plantes. D'ailleurs, la sensation de douleur dans les plantes, c'est un tout autre débat. On les place dans ces tissus-là et ces électrodes vont nous permettre de mesurer des tensions. Ces tensions, c'est finalement ce petit graphique que vous voyez sur l'écran de l'ordinateur. Comme ça, c'est plus visuel. On va parler finalement d'un signal électrique parce que l'origine de cette tension, ce sont des flux d'ions en fait, qui s'originent quand la plante subit un stimuli suffisamment fort. Et ce sont ces flux d'ions qui créent ce courant électrique que l'on peut exploiter. L'importance en fait, de ces courants électriques, c'est qu'ils vont dépendre à leur tour des flux de sève dans l'arbre et de la teneur en eau de cet arbre. Donc ce sont des indicateurs assez directs de l'état physiologique de la plante que nous étudions. C'est Aurore Gériet-Timsit qui fait sa thèse là-dessus. Elle étudie en fait ces signaux électriques et leurs réponses aux situations de canicule en ville. Pour comprendre un peu mieux comment les arbres vont subir ces événements qui sont quand même assez, assez intenses pour nous comme pour les plantes. Finalement, Tout ceci est un projet de recherche en cours, on est beaucoup à être investis. Il y a ce côté aussi, j'en profite pour vous parler du questionnaire dont vous trouverez les QR codes un peu partout dans la salle. Ce questionnaire va nous permettre de recueillir des données sur la vie et sur votre vision, en fait, à vous. Le regard que vous portez sur les plantes qui vous entourent dans votre vie quotidienne en ville. Merci beaucoup.
Bonjour tout le monde. Donc moi je suis Théo de Super Organique, de Studio Organique aussi. Je suis le directeur artistique et je vais vous expliquer un peu ce qu'on a voulu visualiser sur l'écran à l'extérieur. En fait, on est parti de l'idée que le tronc est à l'intérieur de l'arbre où il se passait plein de choses et on voulait symboliser cette texture mouvante, tout ce qui se passe à l'intérieur en fait. Et tous ces flux, tous ces changements de texture. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur quelque chose de purement texturé, qui peut ressembler à des champignons ou à ce genre de choses. Et en fait, on a voulu rester très simple et très intuitif dans la manière dont c'est traduit. Donc on s'est dit, la température, comment on pourrait la symboliser? Peut-être simplement par du bleu et du rouge. Donc plus c'est froid, plus ça va être bleu-blanc. Et plus c'est chaud, plus ça va partir dans du rouge. Ensuite, l'humidité, on s'est dit que si le temps était sec, la texture allait être assez définie, très nette. Un peu plus flou et liquide si le taux d'humidité est élevé. Et s'il pleut, en fait, la texture, au lieu de partir du bas vers le haut, va plutôt partir du haut vers le bas, comme la pluie, en fait. Voilà, que dire d'autre? La nuit aussi, on a fait des changements pour que pendant la nuit, les visuels soient noirs et blancs et plus flous, un peu comme si c'était les rêves de l'arbre en fait. Voilà, comme si c'est ce qu'il imaginait pendant qu'il dort.